Léa Salamé, votre invitée ce matin est danseur étoile.
Bonjour Germain Louvet.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. De la Scala de Milan au Bolchoï de Moscou, vous avez dansé sur les scènes les plus prestigieuses du monde. On a pu vous admirer dans Roméo et Juliette, Don Quichotte et les plus beaux ballets du répertoire. Mais vous êtes là ce matin pour nous parler de votre autobiographie, Des choses qui se dansent, qui sort cette semaine chez Fayard. Vous auriez pu l'appeler « Mémoire d'un jeune homme tourmenté », tant on est loin de l'autobiographie classique, mais beaucoup plus proche dans ce texte du récit engagé et enfiévré. Je me trompe ?
Non, c'est vrai. Je pense que ma volonté, c'était de pouvoir partager des réflexions sur la condition de danseur, sur le milieu de la danse et sur l'éducation que j'ai eue à travers tout mon parcours et mon cursus de danseur. Et aussi des réflexions qui mettent en perspective ce que c'est que d'être un artiste aujourd'hui, d'avoir des convictions et d'être aussi un jeune homme gay notamment. Voilà, c'était rassembler tout ça autour de souvenirs, d'anecdotes et d'introspection.
On va parler de vos engagements, puisque effectivement c'est un livre très politique, mais un mot sur votre parcours quand même, pour ceux qui ne le savent pas, vous le racontez. Le livre commence par la fameuse soirée du 28 décembre 2016, vous avez 23 ans, on est à la fin de la représentation du Lac des Cygnes à l'Opéra de Paris. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ce qui s'y passe, c'est ma nomination en tant qu'étoile. Danseur étoile. Pendant les saluts à la fin du ballet, les rideaux se baissent, se relèvent, etc. On salue les uns après les autres. Et est annoncée au micro cette nouvelle qui est pour moi un choc, un bouleversement et d'une certaine manière une seconde naissance.
Un choc, un bouleversement, vous pensez à votre grand-mère à ce moment-là ?
Oui, j'ai une pensée très émue pour ma grand-mère qui est plus là aujourd'hui et pour qui j'avais dansé sur une musique du Lac des Cygnes, je m'en rappelle, à un anniversaire quand j'étais petit, genre dans la salle polyvalente de mon village et je pense que voilà, elle est toujours là aujourd'hui.
Et vous écrivez aussi, au moment où vous entendez votre nom, cette nomination qui est l'acmé, le point d'orgue d'une carrière de danseur, c'est-à-dire devenir danseur étoile de l'Opéra de Paris, vous écrivez « Je suis déchiré par la sensation grisante d'accéder à un rêve que j'ai à peine eu le temps d'imaginer ». Et la peur effroyable de ne pas mériter cette réussite, cette reconnaissance, cette affection, j'en tremble. La peur de ne pas mériter cette réussite, ça traverse tout votre livre. Vous vous demandez en permanence si vous méritez ce qui vous arrive, être danseur étoile, les applaudissements, la reconnaissance, la carrière. Tout le livre, vous vous demandez si vous méritez ça.
On est très exposé, on est sur scène, on est aussi très valorisé. Et donc oui, c'est vrai que c'est une vraie peur de se demander si on mérite cette attention, si on mérite cette affection.
Vous pensez en fait que vos réussites personnelles sont toujours synonymes d'échec pour les autres, c'est ce que vous écrivez. Et donc vous n'arrivez pas à jouir totalement de votre réussite personnelle parce qu'il y en a un autre qui est déçu.
Disons que ces réussites, elles sont toujours synonymes de travail, d'acharnement. Et moi, la danse, je considère que c'est vraiment un travail collectif. J'ai dû endurer aussi ce que ça voulait dire, ce système pyramidal, hiérarchique, qui est qu'au fur et à mesure, on abandonne petit à petit cette notion du collectif quand on arrive soliste.
Mais ce problème de légitimité, il vous vient de l'enfance, de votre enfance, dans un petit village rural, si éloigné des dorures au fond de l'Opéra de Paris.
Je viens d'une famille et d'un milieu culturel qui n'est pas forcément prompt à et logique de devenir danseur. Tout est arrivé un peu pas à pas, avec toujours cette passion énorme qui me dévorait, cette envie de bouger, cette envie de mouvement, cette envie d'art et d'expression. Ça a été vraiment mon moteur. Et c'est ce moteur qui fait que tout ce qui m'est arrivé autour me paraissait c'est presque trop.
Ouais. Vous racontez très joliment comment la danse est venue à vous, comment elle vous a dévoré, comme vous dites. Enfant, vous commencez à danser et vous écrivez « Impossible de me l'expliquer, ça me traverse comme ça, comme une bourrasque chaude. J'ai envie de libérer, de crier cette énergie folle qui galope en moi, mais aucun son ne sort, car à sa place, c'est mon corps qui se met à se mouvoir. Ce cri, je le danse. »
En écrivant ce livre, ça a été presque une thérapie aussi, c'est de me replonger dans des souvenirs très primaires. Mais quand j'y repense, c'est vraiment ça. C'est une hyperactivité sensible qui se traduit par « j'avais pas suffisamment de mots pour l'exprimer, cette énergie, cette volonté de vivre, de crier, cette envie d'exprimer et ça passait par mon corps et ça passait par la musique. J'aimais déjà beaucoup la musique aussi.
Mais ce cri, il est joyeux ou il est angoissé quand vous avez 3-4 ans qui vous saisit ?
Non, je pense qu'il est joyeux, mais je pense que c'est de l'énergie vitale. Ça peut être de la colère aussi. Quand on est enfant, on a beaucoup de colère en nous. On se cherche, on essaie de comprendre le monde dans lequel on est. Et je pense que voilà, c'est toute cette envie de croquer le monde autour de moi qui me donnait envie de danser.
Mais vous dites aussi, je pense que je ne suis pas devenue danseur étoile par vocation, mais par opportunisme. Expliquez-nous ça.
Oui, alors j'ai choisi ce terme qui peut paraître un peu provocateur, mais parce que je pense que la vocation est une vraie construction, en tout cas pour la danse classique, tant il y a de critères, de sélection, tant on est dépendant à la fois de notre comportement social, de notre environnement culturel et évidemment de tous ces critères physiques qui nous sont imposés pour arriver au sommet de la pyramide.
Ah, la beauté, c'est quelque chose qui vous gêne.
Oui, c'est quelque chose qui me gêne parce que quand je regarde les autres, c'est pas la beauté classique qui va forcément m'emmener quelque part. Alors, je suis très,
conscient.
Conscient, voilà, de ce qui m'entoure.
De la beauté de votre corps, qu'on vous a aussi choisi pour
votre visage.
Et puis que je façonne,
avec lequel je suis très, très exigeant, justement, pour atteindre des canons de beauté qui sont imposés, qui sont intrinsèques à la danse classique et à ce qu'on en a fait. Mais, c'est pas forcément cette beauté-là qui m'émeut. Et donc, je me pose toujours la question de pourquoi nous, dans notre sphère, on est toujours régi par ces codes-là.
En même temps, participer à l'industrie du luxe, ça vous dérange pas. C'est-à-dire poser, parce que vous collaborer avec plusieurs marques de mode, ça vous dérange pas pour le coup d'exposer votre beauté?
Disons que oui, alors je sais pas si c'est ma beauté que j'expose, je pense que j'expose surtout ma personnalité d'artiste, et les marques avec lesquelles je collabore connaissent aussi mes engagements, connaissent aussi qui je suis et comment je m'assume dans la société.
Et comment vous vous assumez, c'est aussi en étant homosexuel, vous le montrez sur votre compte Instagram notamment, c'est important pour vous de le montrer, d'être un modèle, parce que vous racontez effectivement comment vous vivez mal, adolescent, d'être attiré par les garçons, vous parlez d'un mélange de honte et de culpabilité, de quelque chose d'interdit, alors même que vos parents vont accepter facilement votre homosexualité.
Oui, complètement, mais je pouvais pas avoir des parents plus tolérants à ce sujet. C'est justement à travers cette lecture-là de mon éducation que je me rends compte à quel point la société, le poids de la société est forte, ou en tout cas l'était à l'époque où j'étais adolescent, et je pense continue à l'être, même si on évolue, même si ça avance.
Mais pourquoi cette honte, alors, enfant, d'avoir une attirance pour les garçons, si vos parents l'acceptent?
Ah, parce que je pense que rien autour de moi m'indiquait que c'était quelque chose de viable, de possible, où je pouvais avoir un avenir, où je pouvais être heureux surtout. La dimension du bonheur n'était pas accessible autour de moi à travers un modèle de couple homosexuel ou de famille homoparentale.
Vous dites aussi que la virilité est une prison dont vous avez toujours voulu vous échapper. Vous critiquez le fait que la plupart des rôles que vous devez interpréter sont ceux de l'homme puissant. Si loin de ce que vous êtes, vous trouvez que les rôles du répertoire sont trop clichés.
Alors, c'est pas vraiment qu'ils sont trop clichés, ce sont surtout des rôles qui ont été construits à 150 ans, donc avec une vision de la masculinité, de la féminité, et même en général des rapports humains très différents de celles qu'on a aujourd'hui. La ballerine et le danseur ont des identités qui leur sont propres, et la puissance fait partie de l'identité de la figure masculine, et la grâce et la légèreté de la figure de la ballerine. C'est pas vraiment des choses qui me posent problème, c'est des choses que j'ai envie de questionner. J'ai envie de proposer ma propre vision de la masculinité, au même titre que j'ai envie que ma partenaire puisse proposer sa propre lecture de la féminité et pas qu'elle se sente esclave des codes de la féminité. Tout ça n'enlève pas la structure que je suis très heureux d'utiliser, chorégraphique.
C'est ça, vous voulez pas éliminer les pièces qui font partie de notre patrimoine culturel. Vous voulez pas faire de la cancel culture forcément sur cette question-là.
Non, c'est pas du tout la question. De toute façon, la question de la cancel culture, pour moi, elle n'existe pas vraiment dans le ballet, puisque la danse est un art vivant et donc par définition éphémère. Tous les grands ballets classiques qu'on connaît aujourd'hui, le Lac des Cygnes, Casse-Noisette, La Belle au Bois Dormant, etc., sont des ballets qui sont remasterisés tous les 20-30 ans par des metteurs en scène successifs qui proposent une nouvelle lecture. Je rappelle que le Lac des Cygnes de Nourrieff, qu'on danse à l'Opéra de Paris depuis 40 ans, qui est la référence de l'Opéra de Paris, c'est un Lac des Cygnes que Nourrieff a créé en 1984, je crois, et qui a fait un tollé à travers le ballet. Ils ont fait grève parce qu'eux étaient habitués à une version de Burmeister jusqu'à présent, et Nourrieff a dû proposer une double programmation de Lac des Cygnes pour apaiser les tensions, et aujourd'hui, Burmeister, on l'a complètement oublié. Donc de toute façon, il n'y a pas de cancel culture pour moi, il n'y a que des esprits conservateurs qui tendent à figer ce que c'est qu'un danseur et figer ce que c'est qu'un ballet.
Vous parlez aussi de la diversité et du manque de diversité dans le milieu de la danse et de l'opéra. Récemment, une danseuse noire, Chloé Lopez Gomez, a raconté les brimades qu'elle avait reçues parce qu'elle était noire. Ses professeurs lui disaient « c'est pas harmonieux une danseuse noire » ou lui demandaient de porter un voile blanc quand elle dansait. Vous diriez que les choses évoluent ou pas assez vite ?
Alors, je dirais que les choses évoluent parce que de toute façon, il y avait urgence, et il y a toujours urgence sur ces sujets. Je pense que la formation de la danse classique favorise aujourd'hui l'image d'un danseur et d'une danseuse blanche et blanc avec un corps svelte, etc. Cisgenre, j'en passe. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence à repenser comment inclure sur scène dans la représentation et parallèlement à ça, dans la sélection et dans l'approche culturelle de comment on propose un cours de danse classique, inclure toutes les minorités qui sont pour moi aussi le public, enfin le public que moi je souhaite avoir.
Bien voilà, vous aurez compris, amis auditeurs, que c'est un texte engagé, signé d'un jeune danseur étoile de 28 ans, Germain Louvet, des choses qui se dansent. C'est chez Fayard, merci et belle journée.
Merci à vous.